Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD mensuel au jus de citron. Bonjour Thio.
Bonjour.
Donc nous sommes aujourd'hui ici pour notre troisième épisode officiel, en comptant l'épisode 0. C'est le fait 4, enfin on s'en
fout. Donc ça fait 4.
Pour un programme assez chargé, très très comics et très très retour vers le futur, on va dire. Car on a beaucoup de BD qui parlent soit de nostalgie, soit qui sont vieilles en elles-mêmes, soit qui parlent de voyage dans le temps. Je tenais d'abord à faire quelques petits errata comparés au dernier numéro, car j'ai malheureusement attribué la traduction de Savage Dragon à Edmond Touriol, alors qu'il s'agit de Jérôme Wiki.
Désolé.
Oui, c'est lui-même qui m'a corrigé sur le forum Super Pouvoir. Merci beaucoup d'avoir écouté et de nous avoir remercié pour féliciter la traduction, bref. On m'a aussi signalé que Death Note avait 13 tomes, je crois que j'avais dit 8 ou un truc comme ça la dernière fois.
8.
Ouais, bah c'est 13, zut, faudra en acheter plus. Voilà, on continue dans les merci.
Je crois que c'est la faute à Wikipédia.
Ouais, c'est possible.
Wikipédia, c'est nul.
On continue dans les merci en remerciant tous les gens qui nous ont laissé des commentaires sur le blog, des commentaires sur iTunes, qui dans les divers forums où j'ai lancé ma grande campagne de pub, car ce mois-ci j'ai fait une très grande campagne de pub sur plein de forums, désolé si ça fait du spam sur certains de vos forums préférés, qui en ont discuté, et principalement le forum de la communauté Bedover, que Mathieu connaît bien parce qu'il fréquente pas les forums, il y connaît rien, mais il adore leur appli pour gérer sa collection de BD.
Et les guides BD surtout.
Et leurs guides BD.
Parce que c'est très intéressant d'avoir justement plein de gens qui donnent leur avis sur la bande dessinée. Un peu comme un podcast qui parlerait de BD, enfin.
Et oui. Et donc, merci beaucoup. Au niveau des quelques critiques que nous avons pu recevoir, donc nous avons la classique critique sur la durée. Alors, on va peut-être réfléchir à une autre formule. On va un petit peu continuer comme ça, histoire de voir ce que ça va donner. De toute façon, on a quelques idées qui peuvent être sympathiques pour l'avenir. Peut-être avoir des invités. On va voir comment on va organiser ça. La qualité du son, il va falloir encore que je rentre dans les paramètres techniques pour savoir utiliser un compresseur limiteur pour pas pourrir notre voix et que ça reste correct. La périodicité, si on change notre formule et qu'on fait un truc plus court, on passera peut-être...
À du bimensuel,
merci. Ensuite, sachez que en dehors que j'ai créé une page fan sur Facebook pour le 1A Club. Vous pouvez donc devenir fan du 1A Club, ouais, parce que Twitter, c'est bien, les gens utilisent, mais apparemment, il n'y a que les geeks sur Twitter. Hein. Voilà, peut-être que vous pourrez dire « Ah, oh, on aime beaucoup ce que vous faites !»
C'est ça.
Ouais, hein, ça serait cool.
Du coup, je pourrais m'y mettre et tout, je pourrais mettre des commentaires. Ouais, ça existe trop bien.
Bref, voilà. Et on nous a aussi reproché de ne pas parler assez de la bande dessinée indépendante, tout en parallèle, un de nos commentaires sur le blog disait que ce serait bien qu'on ait un petit passage débat, tout ça dans le genre, quoi. Faire réagir nos auditeurs. Déjà, moi, je vais poser une question toute bête. Qu'est-ce que la bande dessinée indépendante en France ? Clairement, si on commence à faire un état des choses, là, par exemple, ce jour-ci, nous allons parler de The Boys, qui est édité en France chez Panini Comics, qui est loin d'être un éditeur considéré comme indépendant en France, mais qui est quand même édité aux États-Unis chez Dynamite. Autant dire que c'est un éditeur plutôt indépendant aux États-Unis. Donc, comment savoir Milady, qui est un éditeur récent, qui publie des choses très intéressantes, est-il indépendant ou pas ? C'est assez difficile. L'association est-il un éditeur indépendant ? En allant jusque-là, on peut aller encore plus loin. Au niveau manga, est-ce que vous pensez réellement qu'on a du manga indépendant qui arrive jusqu'à chez nous en France ? J'ai un grand doute là-dessus. Donc, si vous voulez nous donner votre avis sur qu'est-ce qui est indépendant, qu'est-ce qui ne l'est pas, vous pouvez le faire sur les commentaires du blog. Nous serons ravis de vous entendre.
Ou des titres. Ce serait bien aussi.
Des titres.
Vous avez des titres directement d'éditeurs indépendants.
Oui,
n'hésitez pas.
Et toi, qu'est-ce que t'en penses alors de ce qui est indépendant ou pas ?
J'avoue que je m'étais à peu près jamais posé la question. Voilà.
Et donc, tu n'as pas de réponse du tout.
C'est exactement ça, en fait. Quand tu vois, tu m'as parlé d'indépendant, je suis resté à peu près dubitatif. Et j'étais là, je me suis dit, oui, mais un éditeur indépendant, c'est quoi ? Alors, j'ai pensé au petit éditeur qui fait ça chez lui, qui imprime ça à la main, que c'est sa femme qui agrafe, mais voilà, rien d'autre.
Il y a de ça. Et donc, pour revenir là-dessus, il faut savoir qu'on a quand même pas mal parlé de trucs de bande dessinée indépendante. Je pense à ce qu'on a parlé de chez Macaca Édition. Je pense, bon, là, c'était de la pub, mais de la BD pas bête.
Saint High School, au début, était indépendant.
Saint High School...
Ça, on peut dire que c'était de l'indépendant.
Ah, ça sortait dans un fanzine. C'est un peu particulier, les premiers...
Ouais.
Bref.
Enfin...
Petite parenthèse technique, j'ai dû faire déménager le blog parce que sinon ça ramait trop pour les téléchargements. Normalement, il y a des redirections, enfin tout le technique est géré, il ne devrait pas y avoir de soucis. Sachez que la nouvelle adresse, c'est blog.jeudepied.org et vous trouverez l'endroit où vous laissez vos commentaires. Nous allons pouvoir maintenant démarrer avec notre séquence Easy Reading.
Et nous commençons donc par City Hunter, tome 20. Qui date donc déjà de 1985, ce qui fait que ça fait déjà très 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 longtemps. Un prix donc de 9,95€, donc c'est pas très cher, c'est de la bonne petite lecture. Tome intéressant parce que on revient sur un petit peu le passé de Ryo Saeba. Et là, on découvre qu'il y a eu plein de choses dans sa vie, il y a eu d'autres personnes qu'il a rencontrées. Et c'est assez... Moi, je trouve ça bien. L'ancienne assistante qui revient, qui essaye un petit peu de jauger la nouvelle. Sympathique.
Oui. En gros, une ancienne assistante de Ryo revient au Japon. Et elle, bon, bien sûr, c'est une super professionnelle de la mort. Et elle se moque un petit peu de Kaori qui, de son côté, bah, à part se battre à coups de marteau qui ne marche que sur Ryo, c'est pas fantastique. Ça y est, on a fait un blanc.
C'est bon,
le blanc est fait. Oui, on nous a aussi reproché les blancs, on va essayer de plus en faire. Vite, enchaîne.
Mais est-ce qu'on a déjà vu une seule fois Kaori tester le marteau sur un autre personnage ?
On l'a vu tenter, il me semble que c'est assez peu efficace. En général, il se passe toujours quelque chose qui l'en empêche. C'est toujours dessiné par l'excellente Tsukasa Ojo, qui fait vraiment encore dans ce tome des dessins très honorables, qui arrive surtout à faire un passage d'un style sérieux à un style humoristique assez bluffant. Bon, on va pas trop s'attarder dessus. Sachez juste que dans ce tome, nous avons donc l'arrivée donc cette ancienne assistante qui permet de révéler le passé et une jeune qui a décidé de vouloir apprendre à tirer parce qu'elle a une agence de détective. Que Ryo apprécie beaucoup car il est situé dans le quartier chaud entre deux Love Hotel, ce qui lui permet de mater comme à son habitude. Nous passons maintenant à Star Wars. Alors Star Wars un peu particulier, on va parler de la nouvelle collection des éditions Atlas, alors que l'on aime ou pas ce système de vente. Il est toujours intéressant de se lancer sur les premiers numéros qui en général ne coûtent pas grand chose. Ici, ce numéro de Star Wars coûte 99 centimes, autant dire une broutille. Nous avons donc, en dehors des 40 000 cartons de pub qui ont dû tuer un nombre d'arbres assez exceptionnel, une bande dessinée qui date de 1977. C'est pas très compliqué au niveau de ce que ça raconte. Si vous avez vu les films, si vous avez lu les différentes adaptations récentes, c'est la même chose. Ce Star Wars a été édité à l'époque par Marvel, qui avait les droits de production sur les bandes dessinées Star Wars. Ce n'est plus le cas maintenant. C'est Dark Horse maintenant, il me semble.
C'est peut-être pas plus mal.
Et ça a été donné au niveau de l'adaptation à des auteurs assez réputés que sont Howard Chaykin, Roy Thomas et Steve Leia-Loa. Bon, Roy Thomas est difficile à présenter, donc il a surtout œuvré sur les Conan. Dessiné par Barry Windsor-Smith chez Marvel aussi, qui sont réputés comme étant de très très grandes BD de Conan. Howard Chaykin a beaucoup travaillé à cette époque, il avait relancé The Shadow en 85. C'est un vieux dessinateur, je ne sais même pas s'il est encore en vie, on n'entend plus beaucoup parler. Et Steve Leia-Loa, qui est à la fois coloriste et encreur à partir de la deuxième histoire. Lui, on entend beaucoup parler, car c'est maintenant l'encreur de Mark Buckingham sur Fable. Donc on a une équipe qui, en 77, n'avait peut-être pas l'expérience qu'on lui connaît, sauf Roy Thomas, hein, qui a quand même commencé les comics en 65. Et c'est une adaptation basée sur des films qui ne sont pas encore sortis. Et ça se sent un peu. Donc, par exemple, sur la couverture, on a un superbe Darth Vader vert, ce qui en soi fait beaucoup sourire.
Ouais, mais c'est une question d'éclairage.
Ouais, c'est l'éclairage. Et ensuite, bah, on va parler clairement. Qu'en as-tu pensé, Mathieu ?
Ça pue.
Ça pue. Quelle argumentation profonde.
Là, tu as vu, j'avais oui, un vrai raisonnement, une sorte de, je sais pas, de thèse presque là-dessus. C'est... Ben, pour revenir, je dirais que c'est peut-être plus intéressant de regarder le film que d'acheter le comics. Parce que les dialogues sont à peu près les mêmes. Il y a eu des variantes, hein, donc sur le Dark Vador qui change de couleur.
Ça, c'était juste sur la couverture.
Bon, après, je peux peut-être parler d'autre chose aussi. Hein. Jabba fait une grosse cure d'amaigrissement, quoi.
Alors, et c'est là qu'on arrive sur quelque chose qui, moi, justement, je trouve très intéressant. Ce que tu reproches à cette bande dessinée, moi, c'est ce que je trouve génial. C'est que cette BD a été faite alors que le film n'était pas sorti. Roy Thomas et Howard Chaykin ont dû se baser sur des images qu'ils n'avaient pas. Il faut savoir que l'image où on voit le Jabba de l'époque, c'était comme ça que Jabba était vu à l'époque du premier épisode de Star Wars, enfin du quatrième épisode de Star Wars.
Oui, oui, mais enfin, dans Un Nouvel Espoir, normalement, sur la première sortie film, il n'y avait pas Jabba.
Il n'y était pas du tout. La scène a été rajoutée après avec un Jabba en image de synthèse mal fait.
Et en plus avec des
doubleurs nouveaux pour Han Solo. Enfin, c'était pourri. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que déjà de l'équipe de Trad, il y a eu un très grand respect d'essayer de coller au film, de coller au ton de l'époque, aux expressions pourries qu'on avait dans les années, à la fin des années 70. Je veux dire, c'est proche. Je trouve que les dessins sont très sympa en fin de compte. Moi, je les trouve. Bon, ils sont dans le ton, hein, les couleurs, bah, on vieillit, tout ce que tu veux. Bon, après, l'argument, il y a un argument qui m'a fait trop rire. Les éditions Atlas nous disent avec un superbe papier vintage. En gros, ils essayent de nous vendre un papier pourri en me disant que ça fait trop à la cool, on dirait que c'est d'époque. Moi, je trouve ça super fun.
C'est comme si tu l'avais acheté à l'époque.
Ah ouais, papier pourri, mais.
Regarde, il est déjà jauni.
Ouais, ouais.
C'est pas beau ça ?
Ah, c'est génial. Bref, on a des choses assez intéressantes. Par exemple, nous savons, grâce à cette BD, qui est quand même sortie avant le film, donc qui, selon moi, dit plus la vérité que le film, vu que c'est sorti avant.
Ouais.
Eh bien, c'est Han Solo qui a tiré le premier sur Greedo. C'est clair, je veux dire, là on ne peut pas le nier, je veux dire, c'est l'évidence même.
Oui, oui, non. Ben, ça intéresse que les Star Warsophiles.
Que les grands fans de Star Wars.
Voilà, de la première heure. Est-ce qu'en fait, il avait la main entière dans la poche ou il avait mis que les quatre premiers doigts ? Enfin bon. Voilà.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est. Disons que. On a une approche originale. Alors, bien sûr, effectivement, je pense qu'il faut être intéressé par Star Wars derrière. Alors cette collection est sympa à ce niveau-là, mais alors elle le devient un peu plus après, sauf que ça va devenir trop cher pour moi, à 6 euros le papier vintage, le numéro. Disons que, clairement, ce qui se passe après, c'est que ils ont dû improviser les auteurs, c'est-à-dire qu'entre les deux films, ils ne savaient pas où ils allaient, et donc ils ont dû gérer tout ça. Alors, ces épisodes-là étaient déjà passés en France, avaient déjà été traduits en France, dans les vieux magazines Titan, qui accueillaient d'autres personnes, d'autres super-héros. Et bah, ils allaient, ils ne savaient pas trop où, il fallait qu'ils comblent un peu ce qui se passait entre les deux films, sans savoir ce qui allait se passer dans le deuxième film. Et là, on a eu droit à des choses très très drôles, genre Luke à fond amoureux de la princesse Leia, parce que pour eux, c'était l'évidence qu'ils allaient finir par être ensemble. Oui, c'est le mal. Bref, je trouve que c'est une curiosité. Je trouve que le travail d'édition est très intéressant et très bien rendu, en dehors de la qualité du papier pourri, mais bon, ça...
Vintage,
pardon. Bref, si vous aimez Star Wars, bon, ça vaut pas le coup de au prix que ça coûte d'empêcher de le lire. Qu'est-ce qu'il y a ?
Si vous aimez Star Wars, bah, achetez les films, ce sera mieux.
Oui, non, mais si vous aimez Star Wars, vous avez déjà les films.
Ben, regardez-les.
Oui. Moi, je dis, de toute façon, je vais punir Mathieu pour le coup. J'ai acheté les deux suivants, qui étaient encore à un prix intéressant, et nous allons les lire. Et nous en reparlerons dans une prochaine émission. Et pour fêter ça, nous allons vous faire une petite lecture, à moins que tu aies quelque chose à rajouter avant.
Non, justement, il faut acheter les trucs Atlas juste pour une seule et unique raison, c'est que vous avez droit à un concours gratuit pour gagner un X-Wing en modèle réduit.
Oui, ou bien alors le C6PO en taille grandeur nature.
Ou un C6PO, mais là, quand même.
Là, ouais, il faut le trouver un moyen, un endroit où le mettre chez soi.
Ça va être compliqué.
Voilà, et avoir être célibataire ou avoir une femme compréhensive.
C'est ça, c'est ça. C'est surtout la femme compréhensive qui devient plus compliquée.
Donc, nous poursuivons en faisant un petit exercice, comme nous l'avons fait, un petit extrait que nous avons lu de ce Star Wars. C'est parti.
C'est parti. Cessez de brandir votre baguette de sorcier dérisoire, Seigneur Vador. Cessez de vous accrocher à l'ancienne religion. Ça ne nous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés. Ni de donner la clairvoyance de localiser la base des rebelles. Et d'ailleurs...
Votre manque de foi me consterne.
Nous passons maintenant à la rubrique Presque Neuf. Et qu'avons-nous de Presque Neuf aujourd'hui, Matt ?
Daredevil Battling Jack Murdock. Donc, qui est de 2007, un prix tout à fait raisonnable pour une histoire aussi exceptionnelle.
Ouais, exceptionnelle. Enfin, c'est du déjà vu quand même, hein.
Non, ça coûte 10 euros, donc là je finis, hein, parce que là il m'a coupé quand même. Et pour une histoire vraiment qui est excellente, donc qui est dessinée par Carmine Di Giandomenico. Les noms italiens,
c'est... Giandomenico.
Ouais, c'est ça, il faut être corse pour
ça. Carmine Di Giandomenico.
C'est ça, il faut être corse.
Si.
Et au scénario, donc, Zeb Wells. Une vraiment très très bonne histoire, je me suis régalé avec des très... très beau dessin, une super mise en page.
Alors, que nous raconte ce numéro ?
Alors, ce numéro nous raconte justement l'histoire en fait, de Jack Murdock, qui est en fait le père de...
Matt Murdock.
De Matt, mais oui, le père de Matt, donc qui est en fait...
Daredevil.
Et donc, l'histoire en fait, de Jack Murdock est, on va dire, de la...
C'était pas l'ennemi de MacGyver ?
Jack Murdock ?
Ouais.
Jack, c'était son...
Ah non, et Murdock, bon...
Non, c'était pas Murdock.
Quel hors-sujet fantastique.
Hors-sujet, ouais, la sujet était intéressant, dis donc. On a bien avancé.
Qu'est-ce qu'on est cool. Mais ça permet d'éviter d'avoir des blancs. C'est ça. N'importe quoi, et comme ça...
Donc, l'histoire de Battling Jack Murdock est vraiment super, parce qu'elle va nous raconter le début de la vie de celui-ci, et puis aussi la venue de Matt, de la mère de Matt, la cécité de Matt... Et la fin de la vie de Jack Murdock aussi. C'est toute une histoire, mais qui parle pas de Daredevil. Et c'est excellent.
Et qui, pourtant, est une très très bonne histoire. On y parle un petit peu de Daredevil, parce qu'on a un peu, entre guillemets, les tout débuts de Matt Murdock quand il se mettait sa capuche sur la tête et qui se baladait comme il pouvait. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'écriture. Alors là, elle ressort un peu moins dans l'album complet. Mais en gros, pour ceux qui connaissent un peu Daredevil, Jack Murdock a dû, en fait, perdre un combat parce qu'il faisait des combats de boxe truqués. Et malheureusement, ce Jack Murdock, pour donner une bonne image à son fils, a refusé de perdre un combat et s'est fait tuer juste après. L'histoire est connue. Et en fait... Toute l'histoire nous parle de ce combat. Chaque tome correspond à un round de ce combat, car il doit se coucher au quatrième round. Et sur chaque round, on a un flashback qui nous raconte comment est-ce que Jack Murdock en est arrivé là. Cette construction est vraiment intelligente, vraiment bien menée. On a en gros sur ces quatre tomes ce combat de boxe, qui est le combat de sa vie, hein, ce qui va l'amener jusqu'à sa mort. En parallèle, on voit qu'on a un personnage très humain, très intéressant, qui a des problèmes, qui n'est pas totalement parfait. Le seul truc qui fait un peu bizarre, c'est vrai que le gars avec sa femme qui est devenue religieuse au milieu, c'est acquis parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire de Daredevil, mais ça c'est depuis les ajouts de Kevin Smith d'ailleurs, le fait qu'on soit sûr que sa mère soit religieuse. Ou de Frank Miller, je ne sais plus. Et les dessins. Les dessins, Matt.
Enfin, voilà. Moi, je me suis... Moi, je ne peux pas, non. Je sais pas trop comment dire. Là, je suis en train de regarder les couvertures, surtout des épisodes US. Et voilà, les couvertures sont excellentes. Ouais. Moi, ça représente vraiment le combat. Les quatre rounds, quoi. Et puis, avec une fin qui est... La couverture de fin, je crois.
La dernière image, du corps de Jack Murdock porté par Daredevil. On ne voit même pas le visage, on devine que c'est lui, on voit juste son costume. Moi, ce que je trouvais superbe dans ce dessinateur, c'est qu'il a une façon de dessiner les musculatures. Pour tout ce qui est le côté boxe, il a une façon de dessiner donc, les muscles en mouvement, en action, qui... Il y a une sorte de délié, de façon de faire qui est vraiment... très jolie, la mise en couleur en plus ne gâche rien derrière. Bref, j'ai personnellement, même si cette histoire clairement n'apporte rien à la mythologie de Daredevil, rien du tout, on sait ce qui va se passer, on sait comment ça va se passer, mais c'est tellement bien écrit et tellement bien dessiné que ça vaut le coup.
Avec une mise en page qui est vraiment, voilà, qui appuie tous les flashbacks qu'on a dans l'histoire, là, ce petit passage-là où, où justement, ce qui fait décider... Jack Murdock de ne pas perdre ce combat. On a une pleine page avec juste son visage et des petits fragments comme si d'un coup le miroir s'était cassé et il voit la vérité. Plein de petits fragments donc, de l'histoire qui sont redessinés sur ces éclats de verre. C'est exceptionnel.
Exceptionnel. Et pourtant, Zeb Wells, qui est le scénariste, apparemment a bossé sur quelques titres Spider-Man sans que j'en ai clairement entendu beaucoup parler. Le Carmine dit John Domenech machin chose.
Pareil.
Lui, j'ai l'impression plus qu'il débute. Il a bossé en Italie, hein, c'est un Italien apparemment.
Marvel Italie. Ouais.
Voilà. Il a bossé sur Daredevil Noir récemment. Sur Spider-Man Noir, qui est scénarisé par.
Un petit Français,
voilà.
Donc, là, je cherche le nom, mais je ne l'ai pas.
Fabrice Sapolsky. Qui est un rédacteur de Comic Box, entre autres.
Et David Hein aussi.
Oui, David Hein. D'ailleurs, le Comic Box, on n'en a pas parlé, on aurait pu en parler. Bref, à acheter. Nous enchaînons avec The Boys, tome 5, chez Panini Comics, donc c'est tout récent, hein, c'est sorti aux États-Unis en 2008. C'est donc toujours scénarisé par Garth Ennis, connu pour surtout ses Judge Dredd, ses Punisher, Hitman, The Pro et Preacher, principalement ce Preacher qui est, faudrait que je m'achète les derniers d'ailleurs, et dessiné par l'excellent Darick Robertson, qui œuvre aussi sur Transmétropolitan. Je pense que c'est la principale référence pour laquelle on peut en parler. The Boys, tome 5, nous raconte comment la légende, qui est le proprio d'une vieille boîte de comics, qui a bossé dans les comics pendant des années, raconte l'origine des encapés. Je ne sais plus comment ils les appellent dans The Boys. C'est les encapés ou les super? Enfin bref.
Je sais plus. Non, encapés, c'est dans Powers.
Ouais, les encapés, c'est dans Powers. Enfin bon, des mecs à super pouvoir, quoi. Comment est-ce qu'ils sont arrivés avec toutes les histoires de complots derrière? Ouais.
Non, je te laisse finir parce qu'après tu sais.
Donc on est toujours dans les flashbacks, on est toujours dans les origines. En parallèle, on suit toujours la relation entre notre héros, petit Huggy, et sa copine super-héroïne, sans que chacun connaisse le boulot de l'autre. On apprend aussi un petit peu, on commence à avoir de vagues idées sur l'origine de l'animosité entre, le patron des Boys, comment il s'appelle, j'ai oublié, j'ai un trou, et le patron des 7, les super-héros méchants. Bref, petit retour dans le passé où on apprend toute cette histoire-là, et c'est bourré de complots, de magouilles, pas que gouvernementales, surtout très corporatistes, hein, c'est des sociétés surtout qui manipulent les foules pour faire de la thune, clairement. Ça reste trash et un petit peu revendicatif, mais un petit peu moins, je dirais, que les précédents. Qu'en as-tu pensé, toi ? T'as l'air un peu moins...
J'ai trouvé que c'était un peu... C'est un peu baissé en qualité. Voilà, on est... Voilà, ce tome-là, je dirais, est pas vraiment... Pas aussi acide, aussi cinglant que les autres. Là, on a une histoire. Voilà, bon, on nous raconte un petit peu l'origine, oui. Mais bon... l'histoire avance pas, je trouve, pas assez, et puis on n'a pas de petit instant mythique comme on en avait sur les précédents tomes avec des pages qui nous restent vraiment en mémoire. Là, ça s'est lu, mais bon.
Ouais,
ça
mais est-ce que tu crois pas que c'est aussi peut-être un passage obligé? Je veux dire, on est au cinquième tome, commencer à expliquer d'où viennent les choses, pourquoi ça marche, comment ça marche, qui permettrait peut-être de donner des bases pour appuyer un peu sur la suite, quoi.
Ouais, mais en même temps, d'habitude, il raconte aussi un petit peu de l'histoire et on a un bon mélange des deux. Là, je trouve qu'il y avait trop d'histoire et finalement...
Trop de flashbacks. Et bien, ça risque de continuer comme ça parce que tous les prochains numéros sont axés sur les flashbacks sur chacun des personnages. Parce qu'effectivement, les personnages dans The Boys, on les connaît. Mais alors, la fille, que sais-tu sur la fille, par exemple?
Rien, sur le français non plus.
Sur le français non plus, etc. Donc apparemment, il a toute une série d'épisodes qui racontent les origines qui va arriver. sauf c'est Butcher, le chef des Boys, sauf les origines de Butcher, qui ne seront pas révélées et apparemment qui ne seront jamais révélées.
Ouais,
c'est malin. Je trouve que c'est malin comme, non, comme idée, en fait, pour regarder.
Là, t'as un peu spoilé parce que du coup, plus personne ne va le dire.
Moi, c'est vrai, j'ai un peu spoilé, je l'avoue. Je m'excuse. Mais bon, de toute façon, je vous ai dit que vous ne sauriez jamais. Donc, je ne vous ai rien dit. Ouais, hein.
Ouais, ok, vas-y, rattrape-toi au cordon.
Comme je peux.
Et donc là, nous continuons avec Powers, le tome 6, qui est donc au prix de 15€ chez Panini Comics, avec au scénario Brian Michael Bendis. Connu internationalement donc pour House of M, bien sûr.
House of M, un gros crossover. Enfin, disons que c'est monsieur crossover chez Marvel ces derniers temps. Civil War, machin chose. Voilà, faut avoir un peu suivi Marvel.
Et au dessin, donc Michael Avonoming, qui a dessiné le dernier Templier que Pierrick essaye de me faire lire depuis XXX séance du One Eye Club et qui est toujours bien, bien gentiment posé sur un coin de mon étagère.
On le fera en rattrapage. Je pense que ça peut être intéressant d'en discuter. Il y a des trucs sympas dessus, même si ce n'est pas si génial que ça.
Oui, mais enfin, il faut que je lise déjà. Hein. Ça, c'est... Enfin, bon. C'est autre chose. Donc, Powers, un monde d'encapés, encore une fois, avec une autre vision, on va dire, des super-héros par rapport à celle que l'on peut trouver dans The Boys. Une vision des super-héros qui est un peu plus réaliste, où ceux-ci, on va dire, sont des super-héros, ont des super-pouvoirs, mais eux aussi ont des petits côtés, des petits vices cachés, des choses qui sont un petit peu en dehors de leur vie. Et dans ce tome-là, donc, qui s'intitule « Les traîtres », on va voir un petit peu tout ce que peut faire un super-héros, on va dire... quand il n'est plus sous le feu des caméras, c'est-à-dire quand il n'est plus la rockstar que tout le monde connaît.
C'est un peu le sujet de façon de Powers. Les super-héros sont vraiment traités comme des rockstars, avec les infos people. D'ailleurs, dans celui-là, il y a plein d'extraits dans ce tome, il y a plein d'extraits d'un blog people qui parle de comment coucher avec un super-héros, toutes ces histoires-là.
Ou acheter sa cape, enfin.
Ouais, enfin, plein de trucs assez marrants. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment traités comme de la rockstar, quoi.
À fond sur le merchandising, avec à chaque fois la petite société, les films, les produits dérivés. On retrouve presque un The Boys ou même The Watchmen.
Ouais. C'est plus proche de The Boys. Sauf que là, en fait, les super-héros agissent aussi dans l'ombre, en étant peut-être un peu moins trash.
Beaucoup
moins trash que dans The Boys, mais c'est pas très difficile d'être moins trash que dans The Boys. Et là, en gros, il y a un des super qui meurt. Un des encapés qui meurt. Apparemment, on ne sait pas trop s'il s'est suicidé, s'il s'est fait buter par un gars invisible, ou on ne sait pas quoi.
Voilà, ça va être juste une longue enquête pour savoir justement qui l'a tué. Et donc, ils vont essayer de recontacter tous les super-héros qui faisaient partie de son équipe à l'époque, sachant en fait que ces super-héros-là donc, ne se parlent plus, font des conférences,
en gros c'est un peu comme si tous les gens qui sont sortis de Star Trek faisaient les conférences Star Trek, c'est ça. Et donc effectivement le gars qui fait Sulu que tout le monde connaît juste parce qu'il fait des conférences Star Trek, à côté de ça il peut un peu avoir la haine qu'un Leonard Nimoy ait réussi à faire autre chose de sa vie, ou un William Shatner, pour parler de vraiment quelqu'un qui a fait autre chose de sa vie. Oui, William Shatner a fait des trucs en dehors de Star Trek après
Hooker.
Ouais.
Ouhou.
Donc clairement non, mais il a fait une série aussi, William Shatner, on paraît qu'il est vachement bien dedans il n'y a pas longtemps.
Ouais, mais c'est pareil en France.
Ouais, si, mais sur le câble, je sais pas.
Bref,
ce Powers là parle, enfin bon, on va sans essayer de spoiler, il est très difficile de ne pas spoiler ce numéro parce que près de la moitié du numéro c'est l'enquête pour savoir qui a fait quoi, et l'autre moitié c'est les conséquences de cette enquête. Disons que la thématique générale c'est
Déjà c'est le retour de
le retour du héros,
du héros qui
revient. Qui revient dans l'équipe, Christian Walker qui revient dans l'équipe avec Dina Pilgrim. Il y a toujours l'ancien associé de Dina Pilgrim qui est toujours présent aussi. Il sépare pour l'enquête entre, je crois que c'est New York et Los Angeles.
Ouais.
Et Los Angeles. Disons que le truc qui est un petit peu... Voilà. Le thème, je dirais, en essayant de ne pas trop spoiler, c'est la perte de contrôle.
C'est un thème assez récurrent sur les comics en ce moment. Quand tu prends, par exemple, celui qu'on a fait la dernière session avec... celui avec le plein d'œil autour de lui, là.
Ah oui. Black Summer.
Black Summer, où justement, voilà, on se pose la question de qu'est-ce qui se passerait si les super-héros décidaient, on va dire, soit de gouverner le monde, soit un peu, bah, soit péter les plombs, quoi.
Voilà, on est là-dedans. Oui, c'est un thème, mais je pense que c'est un thème qui au niveau des super-héros, c'est une question qu'on ne s'est pas souvent posé, parce qu'effectivement, on voit toujours les super-héros comme latant la gueule aux super-méchants, qui, eux, ils veulent faire, devenir maîtres du monde ou se faire plein d'argent. Enfin bon, ce numéro de Power, c'est toujours aussi bien dessiné par Michael Avenoming, avec son style très cartoon.
Ouais.
Cartoon, mais réaliste, assez sombre. Enfin, je trouve qu'il a un style graphique bien. Petite difficulté sur certaines scènes de dialogue. Alors, je pense que ça vient du problème album.
Je pense que c'est plutôt la mise en page qui...
C'est un peu des deux. En fascicule, quand tu es en fascicule, tu vois ce que je veux dire ? La reliure est beaucoup moins grosse, ce qui fait que tu vois plus facilement quand tu as affaire à une double page. Là, dans ce Powers-là, bah, parfois, on ne sait pas si on est en double page ou en simple page, et on se plante dans le sens de lecture. C'est le seul, je dirais, défaut au niveau de la narration.
Ouais, enfin, il y a aussi le collage qui est trop serré. Non, mais il y a même des bulles, tu ne peux plus lire, quoi.
Oui, est-ce que le collage est trop serré ? C'est un peu le problème, hein, en disant que niveau édition, c'est des bouquins qui sont étudiés pour sortir en fascicule et que nous, on a ici en album. Et bah, ça marche moins bien. Hein. Donc, voilà pour Powers. Nous passons à Umbrella Academy numéro 2 chez Delcourt pour environ 17€. C'est sorti aux États-Unis en 2009. C'est très rapidement traduit. Je rappelle que cette série a gagné un Eisner Award pour la meilleure mini-série l'an dernier. Pour la première partie. Ouais. C'est scénarisé par Gérard Way, qui est surtout connu comme faisant partie du groupe My Chemical Romance, un groupe rock que je trouve assez sympathique. Je ne sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, non, toi, ça fait...
Je connais pas, donc là, je peux...
Voilà.
Joker.
Qui avait eu la grande idée de faire la couverture de leur dernier album par James Jean, le génialissime cover artiste de Fable, enfin, ancien cover artiste de Fable, et qui est aussi le cover artiste de la première mini-série d'Umbrella Academy. Là, on a changé au niveau des couvertures, mais on a toujours l'excellent Gabriel Ba au dessin, dessinateur brésilien, pas très très connu. Apparemment, il a surtout travaillé dans son pays d'origine, mais il est connu pour avoir bossé avec Fabio Moon, qui est son frère. Ils ont un nouveau titre qui doit durer depuis 4 mois maintenant chez Vertigo aux États-Unis. Que nous raconte ce Umbrella Academy ? Alors là, clairement, ça va être un des résumés les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Car c'est très, très riche. À la base, la Umbrella Academy, ce sont des jeunes qui sont nés un peu partout dans le monde avec des dons. Ils sont sortis un peu de nulle part. Un vieil excentrique les a récupérés, un vieil excentrique anglais, pour les élever et en gros leur apprendre à développer leurs dons. Ils ont eu une éducation assez stricte et assez sévère et ont tous développé des pouvoirs, etc. On est un petit peu maintenant à notre époque. Dans le dernier épisode, ils ont empêché une apocalypse déclenchée par une des leurs qui en gros avait été manipulée jusqu'à en péter un câble parce qu'elle n'avait pas vraiment de pouvoir, celle-là, à la base. Et donc, ils essaient de se remettre petit à petit, mais on est vraiment dans la famille décomposée de super-héros. Ils sont tous, chacun de leur côté, dépressifs. Il y en a un qui est en train de devenir obèse à faire que bouffer, l'autre qui sait plus trop où il va. Enfin bref, tous les héros sont chacun de leur côté, ils savent pas quoi faire. Sauf l'un d'entre eux, qui lui vient du futur, mais il est plus jeune. Et déjà, ça commence. Numéro 5, car c'est ainsi qu'il se fait appeler, a réussi à rajeunir et vient du futur pour empêcher que des phénomènes se passent. Et en gros, le principe, c'est qu'il doit lutter contre lui-même du passé qui est plus vieux pour empêcher l'assassinat de Kennedy. Voilà le principe, car c'est lui-même, dans le passé mais plus vieux, qui tuera Kennedy. Je pense que tout le monde est perdu. Qu'on a perdu, que la clarté de l'histoire est terriblement. Je vous ai largué, quoi. Ça y est, je trouvais plus mes mots.
Bon, mais il n'y a pas de doute, hein, parce que c'est vrai que c'est. Moi, je trouve. Là, du coup, pour te laisser un peu reprendre ton souffle après ce résumé fort long, c'est que l'histoire est très, complexe à résumer, et moi je dirais même trop complexe à lire, parce que c'est trop riche. Il y a trop de choses qui se passent, on se balade d'un bout à l'autre, on est trimballé. Alors, la mise en page est vraiment excellente, c'est très très beau, mais une histoire qui te...
Moi, je dirais que
l'indigestion.
C'est quand même une force, parce que c'est clairement le genre de BD qu'on relit volontiers pour essayer de mieux lire derrière les lignes.
Ouais, mais là, moi j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment très très lourd. J'ai pas trouvé la même légèreté qu'on avait par exemple avec le premier tome qui était léger, c'était nouveau, mais bon.
Ça commence quand même par l'attaque d'un Lincoln géant.
Ouais, mais bon.
Ouais. Oui, c'est vrai que c'est moins léger. Bah, c'est toujours le problème quand on arrive sur le voyage dans le temps, les paradoxes temporels. Alors là, en plus, on a des histoires de monde alternatif, tout ce qu'on veut, parce que ils arrivent quand même à détruire le monde hein, dans cet épisode-là. Ils le font pour de vrai. Ça, c'est pas du teasing, ça.
Sur ce coup-là, t'as...
C'est pas du spoiler.
Non.
C'est du teasing.
Ouais, on va dire ça comme ça.
Bref, c'est intéressant. C'est bien foutu, mais c'est vrai qu'on a tendance un peu à se perdre dans l'histoire. Mais bon, ça vaut quand même le coup, quoi, moi je trouve. Je ne regrette pas de l'avoir lu.
Ah non, mais non. Enfin, je ne regrette pas de l'avoir lu. Je ne suis pas là non plus à essayer de me sortir les idées de la tête. Mais,
Mon Dieu, j'ai lu Umbrella Academy, je vais mourir.
Voilà, c'est ça, le monde va se détruire dans ma tête. Non, enfin, moi j'étais pas. Ouais. Là, j'étais vraiment emballé par le premier. En revenant sur le deuxième, ça m'a moins.
Ouais.
Bon, enfin, même l'auteur à la fin le dit, hein, qu'il a eu quand même beaucoup de mal lui aussi à essayer de trouver un scénario au début pour le deuxième, parce que ce qui ne devait pas.
Oui,
pas
c'était
être
une mini-série.
Été,
ouais, ouais. Qu'as-tu pensé quand même des deux tueurs
Je pense qu'il faut être sous acide pour mieux bien vivre le truc.
Ouais, et pourtant, il me semble qu'Umbrella Academy a été un des remèdes contre l'addiction à la drogue de Gerard Way. Oui, c'est une rockstar, donc il avait forcément une addiction à la drogue. En gros, plutôt que de se shooter, il s'est mis à faire Umbrella Academy à la base. Peut-être qu'il a décidé de voir ce que ça donnait de faire les deux en même temps, c'est ça?
C'est ça, peut-être que là, il y a eu un petit retour quand même, une petite rechute. Hein.
D'accord.
Donc, nous passons à notre prochain livre qui est donc The Goon, tome 7, qui s'intitule Migraine et cœur brisé. Donc, qui est au prix de 15€ chez Delcourt, qui est paru en 2009, qui est donc scénarisé par Eric Powell, dessiné par Dave Stewart.
Non, Eric Powell.
Dave Stewart ne fait que les couleurs, excusez-moi. Couleurs. Il fait de la musique aussi, accessoirement.
Je crois que c'est pas le même, mais bon.
Ah bon. Et
on l'a pas déjà faite cette blague.
Je crois qu'on l'a déjà faite. C'est ça que je disais, tiens, le comique de répétition, ça va être putain.
Il va falloir qu'on fasse gaffe. Hein.
Donc The Goon, donc Migraine et cœur brisé, un tome assez inégal, je dirais, à mon avis. Voilà, j'en parle pour moi. Donc on arrive donc dans un moment de l'histoire où on a eu quand même des gros rebondissements dans le tome 6, avec on va dire la fin d'un méchant.
Oui,
du méchant.
Oui, on a
et donc là, ben voilà, on se retrouve avec.
Il ne meurt pas. Hein. D'un autre côté, il était déjà mort.
Il était déjà mort.
Car c'était un zombie.
Et donc là, oui, on a, on va dire, la suite.
Et là, tu vas finir ma
phrase.
Voilà, et on peut continuer comme
ça. Oui, c'est mais génial. Mais bon, ça va être long après. Là, les gens, tu vois, on va tous les perdre sur le podcast. Et du coup, je sais plus trop où j'en étais.
Donc on avait la fin du boss du
voilà.
Gros méchant dans le dernier.
Donc
numéro.
Là, on se retrouve à faire un petit peu le bilan des faits, des gestes. Donc bah, le Norton, le bar où se réunissaient The Goon et Frankie, n'est plus. La caisse de Goon n'est plus aussi pour d'autres raisons, dont un petit dialogue que l'on va vous faire bientôt.
Voilà.
Et donc. On arrive à une nouvelle histoire, les amours de Frankie, qu'est-ce qu'il recherche comme type de femme, puis un petit retour ensuite de...
Ce qui est bien, c'est qu'avec les amours de Frankie, on peut ressortir toutes les blagues misogynes sur des femmes parfaites.
Et c'est ça. Avec donc les enfants qu'il refuse, un chat qui il a mis une couche culotte, enfin bon.
Frankie est un personnage odieux, nous le rappelons, mais tellement attachant.
Tellement attachant. Après, ton avis un petit peu toi, sur The Goon, qu'est-ce que
tu en
as pensé ?
Sur cet épisode-là, je l'ai trouvé... Alors, à part, on va dire, le twist final de l'épisode. Le twist, oui. Là, je spoile pas, attention à ce que tu vas dire. En fait, la découverte dans l'épisode.
Ah oui.
Je l'ai trouvé que c'était vraiment un épisode de mise en place. C'est un peu mou, il se passe pas grand-chose. Ça fait un petit peu petite histoire indépendante. Ça reste intéressant, ça reste superbement dessiné, mais bon, disons que c'est routinier. C'est-à-dire que voilà, on est dans la routine de The Goon. On a toujours des gros monstres, on a toujours une narration super sympa et super drôle. Mais bah voilà, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Alors effectivement, la fin de l'histoire annonce quelque chose de bon. Il y a un petit twist qui va rendre l'histoire vraiment sympathique. Maintenant, c'est pour le tome suivant, quoi. Donc ça vaut le coup pour cette révélation, mais un petit peu, voilà, la routine.
Ouais, rien de neuf sous le soleil, quoi.
Voilà, et puis une petite histoire finale aussi. Alors comme d'habitude chez Delcourt, ils font une galerie à la fin par des auteurs différents, donc on retrouve un peu de tout. C'est toujours très sympa, je trouve. J'aime bien voir les interprétations différentes
des personnages.
Voilà, par des auteurs français souvent d'ailleurs.
Le Pixel Vengeur a fait une très jolie représentation de The Goon d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
J'ai bien aimé.
Voilà. Et il y a une petite histoire courte. Alors un truc mais complètement halluciné qu'il a dû dessiner au stylo bic. À l'arrache.
Je pense que je manquais de référence pour voilà. Bien comprendre toute l'histoire.
Ouais, alors bon, je pense qu'il faut bien maîtriser le show d'Oprah Winfrey. Et clairement, bah, pour nous, le show d'Oprah Winfrey. Voilà, apparemment, il y a beaucoup de références à Oprah Winfrey qui aurait sorti un bouquin. Enfin bon, c'est du gros n'importe quoi. Pour le coup, c'est très, très, très revendicatif et caricatural. Avant d'enchaîner sur EM, notre petite séquence, lecture, un petit extrait de The Goon, lu avec amour par Thio et moi-même.
Peu de temps après la destruction du Norton, ma bagnole a été démolie. Un vrai carnage. Mais je ne pisse toujours pas très bien pourquoi Frankie avait ligoté ce marchand de chemise sur le siège arrière. Au fait, tu veux me dire pourquoi ce marchand de chemise est à l'arrière ?
On a les étrons tout autour du coupé, c'est maintenant que tu me le demandes ?
Ouais, mais... Ça fait des heures que ce mec est attaché là derrière. J'ai rien dit parce que je pensais que tu le mettrais au jus. Mais il y a un moment où on ne peut plus ignorer un mec ligoté sur son siège arrière, tu sais.
Eh ben ça te regarde pas, mais il m'a volé ma cornemouise.
C'est quoi une cornemouise ?
Ça te regarde pas ! Il sait ce qu'il a fait, pas vrai Wilson ? Sale fils de pute de chapelier de mes couilles !
Bien, j'espère que ces petits intermèdes de lecture vous plaisent. Alors nous, on fait ça juste pour essayer de vous donner un petit peu le ton de l'ambiance de la BD. Sur Star Wars, effectivement, bon, vous vous doutiez un peu de l'ambiance. Voilà, on essaie de voir un peu rétro, c'est dur. Nous passons donc maintenant à un très joli album, indépendant, on va dire.
M. Donc justement, d'ailleurs, je peux remercier le site Bédovore, car c'est grâce au guide BD de ce site que j'ai découvert M, et lisant, on va dire, les avis un petit peu des gens, je me suis dit qu'il fallait l'acheter, que c'était peut-être un achat essentiel à avoir. Donc M, qui est paru en 2008, donc aux éditions donc Emmanuel Proust, qui est à un prix relativement cher, c'est le plus cher, je crois, des livres qu'on a cet après-midi, donc à 21,90.
Ouais.
Mais qui vaut largement le prix.
Bon, alors, après, c'est du cartonné, c'est du papier glacé, voilà. Enfin, c'est une belle édition. Quoi.
Disons que vous en avez pour votre argent. Quand même. Donc l'histoire de M, pour faire simple, donc, c'est inspiré donc, de M le maudit de Fritz Lang. M le maudit qui était lui-même inspiré d'un fait divers allemand donc, qui était donc, le vampire Düsseldorf, donc un serial killer allemand qui, on va dire, tuait. Simplement.
Oui, oui, c'est le mot, je crois.
C'est ça, c'est le mot. Une fois qu'on a ôté la vie, on meurt, en fait. C'est tué. Uh-huh. Donc, il tuait des enfants, et dont Fritz Lang donc, a fait un film, M le maudit. Et John G. Mutt, donc, qui est l'auteur donc, de ce M, a repris l'histoire de Fritz Lang, de M le maudit, donc, justement pour faire un roman au réalisme, je dirais, photographique.
Oui, oui, c'est... Très photographique. Oui.
C'est très photographique. En fait, il prend des photos, pour expliquer juste à peu près comment il travaille, il prend des photos et ensuite il repeint la photo en rajoutant ensuite des traits, en obscurcissant un petit peu. Enfin, c'est un vrai travail de photographie donc, qu'il réalise au départ, parce qu'il demande aux personnes de poser. Il a choisi ses acteurs dans son entourage. Et il leur demande donc, de prendre des positions, il les habille, il prend les photos et ensuite il s'en sert donc, justement pour faire donc, son roman. Alors moi j'ai trouvé esthétiquement c'est un travail qui est exceptionnel, qui est vraiment très très beau, où on a l'impression, les sentiments qui transparaissent, on va dire, vraiment de cette obscurité, la noirceur, les meurtres, la peur que, on va dire, qui va envahir toute la ville.
Ça fait penser un peu à de l'expressionnisme allemand, par exemple.
C'est à peu près ça. Et là, donc, nous allons passer la parole à Maître Capello, qui va longuement nous abreuver de son savoir.
Oui, oui, petit scarabée, car j'ai fait des études de cinéma où j'ai longuement parlé des expressionnistes allemands. Donc, on est toujours dans ce côté expressionniste, même si je trouve que pour le coup, on est plus dans l'impressionnisme, car là où les expressionnistes essayaient d'avoir des couleurs très tranchées entre le noir et le blanc, ce qu'on a pu voir dans le même ton, on dirait entre guillemets, le Sin City de Frank Miller était dans cette idée-là. Ici, on a une image qui est beaucoup plus impressionniste, avec des flous, des effets visuels d'impression. Je ne sais pas si tu as noté aussi des ouvertures de chapitres qui sont des images très abstraites. Mais alors très abstraite, hein, parce que le rond noir sur fond blanc, mais qui participe de l'idée générale. Au niveau de l'adaptation, ça apporte pas tant de choses que ça par rapport au film, à part que ça m'a donné envie, moi, de revoir le film. J'avais un souvenir d'avoir un film moins bavard, peut-être, je sais pas pourquoi, j'avais cette idée-là, peut-être parce que le son était... Enfin, je l'ai vu il y a longtemps, donc je ne sais plus trop. Mais c'est vrai que l'édition est sympa. En plus, voilà, il nous apprend la technique qu'il utilise. Moi, j'ai surtout été bluffé par les dernières images où il a utilisé une autre technique graphique. Là, il est passé à la peinture à l'huile. Où les visages font ressortir des expressions au niveau des sentiments qui sont vraiment... C'est beau, c'est profond. Parce qu'en fait, ça ne fait pas que poser la question de la chasse aux tueurs en série, c'est la question de un fou est-il responsable des meurtres qu'il commet. Et donc, il y a ce jugement fait par la pègre, parce qu'en fait, l'idée, c'est que la pègre commence à rechercher le tueur, car ses actions, mettant la police sur le qui-vive, l'empêchent d'agir. Et c'est la pègre qui va finir par le poursuivre et la police qui va essayer de retrouver le tueur aussi avant la pègre. Bref, c'est une très belle histoire. C'est assez universel, je veux dire, la chasse aux tueurs en série, c'est un sujet sans fin. Mais c'est une histoire d'humanité. On remonte quand même aux années 30, hein, faut voir que ça vient à loin. Effectivement, c'est assez surprenant, il n'y a jamais eu d'adaptation de ce M le Maudit en bande dessinée, alors que le Nosferatu, qui est un autre classique de l'expressionnisme allemand, donc de Murnau, alors lui, on a pu le voir un gros paquet de fois, le Metropolis, on parlait de la Brigade Schumerich dans une de nos premières émissions, on a encore des références au Metropolis de Fritz Lang. Le seul regret que j'aurais, c'est la musique. Ce film était le premier film parlant de Fritz Lang, et quelque chose qui était assez bien trouvé pour un film, alors on a les partitions qui sont présentes, hein, mais quelque chose de bien trouvé pour un film de sonore, alors qu'ils ne savaient pas encore exactement comment exploiter l'usage du son, ils ne savaient pas exactement comment ils allaient en faire, et bien tout de suite, Fritz Lang a eu l'idée d'utiliser un extrait de musique comme gimmick sonore et comme annonce de la présence du tueur. Et j'avais trouvé ça très réussi dans le film. Cette musique qui est assez joyeuse, en fin de compte, pour le coup, faisait un petit peu peur. Bref, c'est un peu le regret, mais il y a un travail graphique. Alors clairement, on a plus une recherche artistique que narrative. Ouais, c'est pas d'accord ?
Ah, je dirais que dans les scènes du procès, tu as... Parce que voilà, moi surtout, je me dis c'est qu'il a dû, il a fait poser les personnes pour justement ensuite pouvoir retirer les traits dont il avait vraiment envie. Et c'est artistique certes, mais je pense qu'il y a vraiment un travail de mise en scène qui est.
Oui, oui, mais on est plus dans l'esthétisme que dans le narratif. C'est-à-dire qu'on va pas avoir ce qu'on peut avoir dans un dynamisme narratif que tu retrouves dans une, dans les The Goon et Umbrella Academy ou les Powers qui ont un dynamisme dans la façon de raconter. Là, on est plus dans la belle image.
Ah, je suis pas tout à fait d'accord.
T'es pas tout à fait d'accord ?
Je suis pas d'accord parce que vraiment, il y a des changements de plan, il y a des changements de... justement, il y a des effets de zoom.
Ouais.
Tu vois, là, je parle au cinéaste et forcément, moi, je suis vachement petit par rapport à lui, mais bon.
Je suis pas très grand non plus. Hein.
Voilà, t'as vraiment, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des des choix d'angle, des changements dans la façon de regarder les personnages et qui donnent une émotion et qui servent vraiment la narration de M. Voilà. Bon, après, moi, je le regarde peut-être avec mes yeux un peu de néophyte vis-à-vis de tout ce qui est Fritz Lang, parce que c'est vrai que je ne peux l'avouer, je n'ai pas vu M. le Maudit. Je n'ai vu que Metropolis.
Ce qui est déjà pas mal, parce que c'est des films qui sont certes très bien, mais qui sont durs à voir avec nos yeux maintenant, parce qu'ils ont vieilli, ils ont un rythme très très lent. Metropolis, en plus, t'as pas de son. C'est pas forcément évident.
Si, tu mets Queen en fond.
Non, il y a des partitions qui existent exprès pour Metropolis, des auteurs qui ont composé pour.
Et donc, nous passons à la suite, qui est...
Plutôt de Naoki Urasawa et Osamu Tezuka. Alors, Osamu Tezuka est mort. Comment peut-il sortir un nouveau truc avec Naoki Urasawa ?
Il a beaucoup de talent.
Il a beaucoup de talent. Donc, c'est sorti au Japon en 2004. Ça vient de sortir chez Kana, dans la collection Big Kana en France. Ça coûte environ 7,50 €. Il y a un code prix dessus, mais je crois que c'est à peu près ça. Rapidement, une petite bibliographie plus que des auteurs. Naoki Urasawa est un auteur que moi j'aime beaucoup vis-à-vis de son dessin. Il a un dessin très réaliste, très crédible. Je l'ai découvert il y a des années dans le magazine Kamea, qui était édité par Glénat, avec Pineapple Army, qui est une de ses premières bandes dessinées. Entre-temps, il a fait Monster, qui est une saga fantastique, et 20th Century Boys et son épilogue, 21st Century Boys, qui sont des séries magiques. Osamu Tezuka, c'est un peu plus dur de le présenter brièvement, parce que Osamu Tezuka, c'est le père du manga.
C'est Astro le petit robot,
c'est le roi Léo, qui a été sauvagement pompé pour faire un film qui s'appelle Le Roi Lion. C'est La vie de Bouddha, c'est le Blackjack, qui est une série super, faudra qu'on revienne sur l'intégrale du Blackjack d'ailleurs, un de ces quatre. L'histoire des trois Adolphes et Phoenix, alors ces deux derniers, je ne les ai pas lus. Mais paraît-il, enfin, en gros, c'est lui qui a apporté la narration cinématographique au manga. C'est un auteur qui a approché tous les genres, mais vraiment tous les genres, de la comédie romantique au truc d'horreur, au porno, à l'érotisme. Oui, il a vraiment Tezuka fait dans tous les genres. Il a aussi fait du film. Et c'est une référence pour tous les mangaka actuels. Et dans une de ces histoires d'Astro le petit robot, il traitait donc d'un tueur de robots, quelqu'un qui voulait tuer les robots les plus forts du monde. L'histoire s'appelait Le robot le plus fort du monde. Et Naoki Urasawa a décidé d'essayer de prendre la base de cette histoire-là pour, sous un autre angle, nous raconter ça, sauf que plutôt que de faire ça sous une seule histoire, comme le faisait Tezuka en une vingtaine de pages, il a décidé d'utiliser 8 tomes. Ça te fait rire, cette idée de prendre 8 tomes pour raconter un truc qui prenait une vingtaine de pages ?
Oui, mais je pense qu'il a plutôt essayé d'essayer de faire autre chose et c'était juste le terme, c'est tout. Rien, laisse tomber. C'est le jeu de mots là qu'on a dans ma tête.
Ah, d'accord, oui, on a dit qu'on arrêtait l'humour débile en plus.
Et j'ai rien dit, c'est juste ça se passe entre mes deux hémisphères.
Voilà. On pourra peut-être le mettre dans les commentaires si des gens se manifestent pour connaître le jeu de mots débile auquel tu as pensé. Mais manifestez-vous pour connaître son jeu de mots débile, maintenant je suis curieux aussi. Donc, on se retrouve vraiment dans les thématiques classiques. Donc en gros, un robot qui s'appelait Mont Blanc a été tué. On l'a retrouvé avec des sortes de cornes qui ont été posées sur son cadavre. Et un enquêteur qui est lui-même un robot, à apparence humaine, part pour essayer de savoir ce qui se passe et se rend compte qu'en fait, il y a quelqu'un qui tue les robots les plus forts du monde. On est dans le thriller, qui est un genre assez cher à Naoki Urasawa, dans Monster et 20th Century Boy, même si dans 20th Century Boy, on avait un côté SF, on est toujours dans le thriller, le côté enquête, recherche, un peu sombre.
Et toujours en Europe.
Il aime bien l'Europe,
ouais. Je veux dire, toujours avec...
Fast and Twisted Century Boy, tu...
Non,
pas du tout en Europe.
Moi, je parle pour Monster, en fait.
Et disons que... à part cette introduction, ensuite, on rentre vraiment, moi, ce que j'ai trouvé, dans quelque chose qui est plus proche du travail de Tezuka que du travail de Urasawa. Pourquoi ? Parce que Urasawa nous fait des super histoires à rallonge. Parfois un peu trop haut, je dirais que c'est vrai que sur 20th Century Boy, il aurait pu nous virer un ou deux tomes sans difficulté, je pense.
Sans difficulté, oui.
Voilà, sur Monster, il aurait pu en virer un, hein, peut-être. Enfin bon, il rallonge un petit peu, même si ses histoires restent toujours vraiment très très bonnes. Là, on a plus ce côté fable, c'est-à-dire qu'on a des épisodes qui peuvent se lire indépendamment. On a cette enquête, certes, mais on a des histoires indépendantes qui traitent de l'humanité des robots. Un sujet qui est le sujet principal d'Astro Boy, hein, de Tezuka, ouais. C'est est-ce qu'un robot peut être humain ? Là, clairement, les robots sont considérés dans la société comme ayant un côté humain, mais avec une ségrégation et un racisme anti-robot. C'est, j'ai vraiment retrouvé ce côté du racisme anti-robot. Assez marrante. Enfin, marrante. Dans le sens... oui, non, c'est pas... Voilà, les gens racistes sont des gens super drôles. On est des enfoirés au One Eye Club. Non, ce que je voulais dire, c'est que... il y a une transposition sur le robot du racisme. C'est-à-dire qu'il part du principe que le robot peut effectivement être intelligent, avoir une vraie intelligence artificielle développée, ressentir certaines émotions, même si là, le doute subsiste. On ne sait pas trop.
Ils la ressentent.
Ils la ressentent. Mais c'est-à-dire que les humains, certains pensent qu'ils la ressentent, d'autres qu'ils ne la pensent pas, d'autres que c'est impossible qu'ils la pensent. C'est comme réfléchir pour un noir, tu vois. Voilà, là je viens de te faire un truc super raciste de la mort. Oui, mais c'est les argumentations qu'on pouvait entendre dans ces époques horribles de racisme. Ça y est, tu es outré par ce que j'ai raconté.
Je m'en vais, je suis désolé.
Non, 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 mais je te donne le point de vue. C'est-à-dire que. À une époque de ségrégation, on pensait que les Noirs n'étaient pas capables, enfin, étaient une race inférieure, ne pouvaient pas penser. Et les gens qui étaient contre ce racisme et contre l'apartheid, hein, pour en parler, disaient « mais non, ils sont comme nous ». Et là, on se retrouve avec ce double débat. Ces robots sont-ils comme nous ? A-t-on réussi à fabriquer des robots, enfin, des créatures vivantes à notre image et qui pensent comme nous ou pas ?
Avec à chaque fois des petites piques pour rejoindre, on va dire, quand même des grosses bases sur les robots. Avec est-ce que les robots rêvent de moutons, hein ? On rejoint
Le Blade Runner,
Philip K. Dick, ou aussi c'est un robot. La question que se pose à un moment, donc justement, l'enquêteur, c'est est-ce que c'est un robot qui a tué ? Et là, on rejoint les lois sur les robots. D'Isaac Asimov.
Car un robot, enfin, les robots sont construits selon les lois sur les robots et ne peuvent pas tuer les humains.
C'est ça.
Les humains. Alors, au niveau des histoires, on a ça. Et donc, on a l'histoire de North 2, que j'ai trouvé très sympathique. Comme je disais, le côté fable, qui est une histoire en trois parties et qui peut très bien se lire indépendamment du reste. En gros, on a ce robot qui est un robot de guerre. Qui a été réformé pour devenir intendant
d'un
majordome d'un vieux compositeur dont les traits me faisaient beaucoup penser à ceux de Jean Giraud. Je ne sais pas si tu as remarqué. J'ai trouvé qu'il avait un visage qui ressemblait à celui de Jean Giraud. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est moi qui ai fantasmé ça, hein, mais voilà. Donc Jean Giraud, Mobius, hein, pour les noms bédéphiles, on va dire. Et cet ancien compositeur ne compose plus parce qu'il en a marre, machin chose. Enfin, il est vieux, il sait plus trop quoi faire, il bute sur un truc. Et le robot décide de l'aider à finir, sauf que le compositeur est persuadé qu'un robot ne peut pas ressentir la musique, qu'un robot ne ressent pas les émotions. Et on a cette histoire en trois parties qui pourrait être une histoire complète en soi. Et on retrouve cette succession de fables qui font progresser l'histoire petit à petit. À toi, Mathieu.
Ouais, voilà, tu me repasses le bébé, mais tu as à peu près tout dit, je dirais. Moi j'ai trouvé, voilà, c'est le premier tome, donc c'est vraiment intéressant, ça part bien, on a une bonne histoire au début, des robots, enfin l'inspecteur robot, je dirais, au tout début, c'est pas un robot pour moi.
Oui.
Au début, voilà, c'est il y a un meurtre.
Et il y a un enquêteur. Et
on a un enquêteur.
Je suis désolé si pour certains considéreront ça comme un spoiler. Hein.
Ah, c'est vrai, ça dure 10 pages.
Hein, voilà, ça dure 10 pages. Hein, mais c'est vrai qu'on ne nous le présente pas du tout comme un robot au départ. Et qu'il y a des allusions et il faut un moment pour que ce soit dit clairement que c'est un robot. Oui, pourquoi ? Parce qu'il est marié, etc. Donc on a du mal à
penser. Il est marié, enfin, la société, il a une femme, il veut partir en vacances.
La société telle qu'elle est décrite et l'insertion des robots dans la société, c'est vraiment, je trouve, savoureuse. Quoi. Vraiment, vraiment original. Alors, on va partir sur le côté un peu technique. Alors déjà, je trouve que la jaquette de couverture utilise un papier. Je ne sais pas s'il est vintage.
Il est vintage.
S'il est vintage, mais je le trouve vachement sympa. Bon, ça, c'est du détail. On s'en fout un peu, en fait. Mais surtout, le reproche. Je n'ai pas compris pourquoi l'éditeur a décidé de sortir les deux premiers tomes en même temps. J'en ai acheté qu'un, parce que, voilà, en gros... Quand on est consommateur de BD, on dépense assez de sous comme ça pour pas avoir à acheter deux tomes d'une nouveauté en même temps. C'est comme si d'un coup, ils décidaient de nous sortir... on va sortir Torgal. Ah ouais, c'est trop bien. Sursortez tous les tomes en même temps. Les gens peuvent... Enfin, je trouve que c'est un petit peu difficile après pour les lecteurs de suivre. Alors, je sais pas pourquoi il y a eu cette démarche. Si elle est commerciale, si elle est réfléchie autrement. Mais je trouve ça très bizarre. Toi, tu t'en fous un peu.
C'est à peu près ça, en fait.
Voilà. Mais bon, non, mais j'aime bien de temps en temps dire ce qui me plaît dans le côté édition, quand même, des bouquins, parce que ça a son importance. Nous passons à la séquence rattrapage.
Ouh, et alors là, on revient dans du très, 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 très ancien, à l'époque de notre CE2-CM1. À peu près. Donc, nous sommes dans les années 86, après où je vous laisse faire le calcul. Pour du Spirou et Fantasio, donc par Tom et Jean-Ry, donc, qui est le tome 36, L'horloger de la comète, et le tome 37, Le réveil du Z.
Alors, on va parler de ces deux tomes, parce que c'est ce que j'ai acheté récemment, qu'en rattrapage, on n'a pas eu trop le temps ces derniers temps. On devrait, je pense, dans les prochains épisodes, faire du gros rattrapage.
Du gros rattrapage.
Voilà, en partant sur des vieux trucs. Mais... C'est parti pour L'horloger de la comète. De quoi que ça nous cause ?
Déjà, tu veux pas situer Tom et Jean-Ry ou...
Bon, allez, je situe Tom et Jean-Ry. Rapidement, donc, Philippe Tom et Jean-Ry, son pseudonyme, sont les auteurs qui ont eu la lourde tâche de succéder à Nick et Covin. Bon, je plaisante, Nick et Covin ont fait des très mauvais Spirou à mon goût. Et Tom et Jean-Ry sont arrivés derrière et ont apporté quelque chose de neuf.
De frais, quoi.
De frais, tout en restant dans cette continuité. Bref, de très bons Spirou et Fantasio, et d'ailleurs, ils ont duré très longtemps sur la série. L'horloger de la comète introduit de nouveaux personnages. On va peut-être revenir vite fait. Philippe Tom donc, est aussi connu pour avoir écrit Berceuse Assassine. Ouais, je sais, je me suis fait un flan, c'est pas grave. je me suis perdu. Donc, pour avoir écrit Berceuse Assassine, qui est très, 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 très bien comme série.
Et Soda,
qui est aussi très, très, très bien comme série.
Très, 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 très bien.
Soda, oui, mais je pense que c'est mort, Soda.
Oui.
J'attends l'adaptation filmée qui devrait sortir bientôt.
J'ai vu ça.
Ils vont nous faire un film. J'ai vu une belle image teasing du grand Soda. Je me demande ce que ça va donner. Mais ça peut être très sympa.
C'est qui l'acteur ?
J'en sais rien, mais en gros, ça va être quand même un film français qui se passe à New York. Je sais pas, parce que je vois vraiment pas comment on peut retranscrire Soda en France. Donc,
moi, si... ouais, écoute, on verra.
Voilà. Le dessinateur, par contre, j'ai été assez surpris de voir qu'à part du Spirou et Fantasio, il n'a pas fait grand-chose. Il dessine le petit Spirou, qui, bon, lui, je pense, lui assure de vivre bien jusqu'à la fin de ses jours.
Même les Spirou tout court.
Il a scénarisé la série Passe-moi le ciel, qui est une série assez marrante qui passait dans Spirou. Je ne sais pas si elle est sortie en album, Passe-moi le ciel, et qui est dessinée par Stuff, qui est le coloriste, il me semble, de Tom et Jean-Ry à la base. Ils ont introduit de nouveaux personnages, ils ont repris d'anciens ceux qui pouvaient. Hein, le Marsupilami, ils n'avaient pas le droit, donc ils ont fait comme ils pouvaient. Et donc, dans L'horloger de la comète, c'est à toi, Mathieu, de nous dire de quoi que ça parle.
Nos deux héros, donc Spirou, Fantasio et Spip, sont dans le château de Champignac.
Ça fait trois héros.
Ouais, mais est-ce que Spip est un vrai héros ?
Oh oui.
Donc nos trois héros sont dans le château de Champignac. Celui-ci part en vacances et eux, ils ont, on va dire, des petits travaux à faire dans la boutique. Hein, le
jardinage.
Temps de... Jardinage, voilà, bricolage. Et arrive un vaisseau, en fait, s'écrase sur la pelouse que venait juste de tondre Fantasio et sort une copie conforme de Champignac. Mais sauf que ce n'est pas Champignac, c'est Aurélien de Champignac. La différence se fait au niveau des moustaches.
Oui, 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 comme chez les Dupont.
C'est ça. Au niveau des moustaches. Et donc celui-ci vient, en fait, du futur, d'où, encore une fois, du voyage dans le temps. Et il vient dans le futur, en fait, pour chercher des...
Dans le passé, oui.
Oui, enfin, Yu-Yu. Mm-hmm. Ouais. Oh, c'est lourd, ça. Ouais. Donc, il revient...
Il vient du futur pour aller dans le passé.
Il vient du futur pour aller dans le passé, mais il reviendra dans le futur à un moment pour chercher donc justement des plantes... pour chercher des plantes en Palombie, bizarrement.
Oui, c'est un pays récurrent.
C'est un pays assez récurrent quand même. Et donc, nous avons donc le nouvel animal qui apparaît, qui est un snoufler.
Voilà, on sent clairement qu'ils ont voulu apporter leur marsupilami à eux avec le snoufler, qui est un animal très bizarre quand même.
Très, très, très bizarre.
Il pète des bulles qui ressortent les objets qu'il a avalés. C'est un délire complet. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fumé quand ils ont créé ce personnage-là.
Ou alors, il peut aussi recracher des bulles qui font du texte.
Oui, oui, c'est très bizarre.
Voilà, et donc du coup, ils essaient, le Aurélien de Champignac donc, les ramène une nouvelle fois dans le passé. Mais en fait, ils se retrouvent dans un passé très, très lointain qui serait celui de la conquête des
Amériques. De la Palombie,
ouais, par les Portugais à l'époque, ou les Espagnols, je ne sais plus. Et ils sont pris pour...
Oui, parce qu'ils se sont un peu plantés dans ces calculs de voyage dans le temps, grand classique.
Oui, parce qu'en fait, ça passe qu'ils ne peuvent voyager dans le temps que quand la comète de Halley passe. Et donc, la dernière fois qu'elle était passée, c'était à ce moment-là. Et donc, ils sont pris pour des espions de François Ier, enfin bon, toute une histoire. Et une police du temps les ramènera finalement à bonne destination.
La police du temps, tiens, on en avait une il n'y a pas longtemps aussi, dans Umbrella Academy.
Dans Umbrella Academy, tout à fait.
On n'en a pas parlé de la police du temps. Qu'as-tu pensé de ce tome en particulier?
Pas grand intérêt.
D'un autre côté...
Voilà, c'est une histoire de Spirou et Fantasio, alors je la commette. Je l'ai lu, mais... Je les ai découvertes maintenant, hein. Je ne les ai pas lues il y a très longtemps, c'est que là, voilà, c'est vraiment la découverte, et je n'ai pas eu envie de la relire de suite. Contrairement à d'autres Spirou et Fantasio que j'ai lu, relu, quasiment dans la foulée. Là, bof.
Voilà. Ouais, un exemple d'un des Spirou et Fantasio que tu as lu, relu dans la foulée
Les Guerriers du Silence. Pas Les Guerriers du Silence.
Rien
à voir, alors là, mais carrément rien à voir, désolé. Les pirates du silence.
Les pirates du silence.
Il y avait quand même silence dedans, hein, j'étais pas loin. Les pirates du silence, voilà, ça c'est un qui m'avait beaucoup plu.
D'accord.
Il y avait encore le marsupilami. Peut-être un lien de cause à effet.
C'était Franquin. Et nous arrivons au réveil du Z, qui est un retour de Zorglub. Dans la continuité de cette histoire, avec l'apparition d'Aurélien de Champignac, donc pour ce tome 37 de Spirou et Fantasio, eh bien, ce qui se passe, c'est que Aurélien revient car il est très ennuyé et qu'il y a un problème dans le futur. En fait, non, il renvoie le snoufler pour les appeler, pour les aider à sauver le futur dans lequel Zorglub Junior a pris le contrôle du monde. Alors, c'est très, très drôle. Ils ont fait un Zorglub Junior tout piti.
Ce qui serait presque, on pourrait presque dire, je crois qu'il y aurait une caricature de notre période actuelle, mais bon.
Ils avaient vu le futur, je veux dire.
C'est ça.
En fait, ils ont
ça.
Vraiment été dans le futur pour l'écrire, ce tome-là. Et donc, on retrouve toutes les gadgets de Zorglub, mais qui marchent beaucoup moins bien. Parce que clairement, Zorglub Junior n'est pas aussi génial que Zorglub. Ouais.
On devrait essayer de parler comme eux d'ailleurs. Tiens.
Ouais, on rappelle que Bulgroz est repenti. C'est. Non, mais j'y arriverai pas comme ça. Les Zorglums sont tous minables. Ils se plantent, ils se parlent mal la Zorglangue, etc. Et donc, l'objectif, c'est d'empêcher ce dictateur de contrôler le monde, de le faire tomber. Ce qui est assez original, c'est que pour éviter les paradoxes temporels, ils ont trouvé quelque chose de très très bien. Ils doivent régler un problème dans le futur plutôt que de régler un problème dans le passé. Au moins, on est sûr que ça ne créerait pas de paradoxe.
C'est pas faux.
Ils vont dans le futur, ils font tomber le dictateur. Oh zut, j'ai dit qu'ils allaient gagner à la fin. Quel spoil pour un Spirou et Fantasio.
Est-ce que les Spirou et Fantasio ont déjà perdu une seule fois?
En 37 numéros.
Non, je réfléchis intensément. Non.
Bref, c'est surtout l'occasion pour Tom et Jean-Ry de refaire des clins d'œil à une des meilleures périodes de Spirou et Fantasio, qui est celle de Franquin, avec ce superbe Zorglub, d'ailleurs.
Qui est dédié.
Oui, il est dédié à André Franquin.
Hein, et à tous ses descendants jusqu'en 2062.
Exactement. Bref, moi j'ai trouvé que c'était un très bon tome, Le Réveil du Z, dans la continuité des...
Là, je suis d'accord. Le Réveil du Z est un très bon tome. L'Horloger de la Comète, beaucoup moins.
Oui, L'Horloger de la Comète, c'est la routine de Spirou et Fantasio, nouvelle période, quoi.
Avec un plan qui, dans Le Réveil du Dead, est très drôle, c'est le musée.
Oui.
Parce que du coup, on retrouve exactement le même musée que dans... alors là, je cherche le nom du tome. Le
musée
des Abysses. Attendez, c'était... Il y a le triangle...
Ah, le triangle...
Le triangle du diable et le tome suivant, et ouais. Où justement on a quasiment la même image. Ça m'a fait, voilà, un petit revival, ouais, de mes lectures de jeunesse.
Bon, je n'en ai pas souvenir.
Je cherche. Bah, vas-y, continue.
J'en ai pas souvenir. On va aller blanc. Donc, c'était un court rattrapage sur ces deux Spirou et Fantasio.
Et c'est les faiseurs de silence, au fait. C'est pas les pirates du silence, déjà.
Ah, c'est les faiseurs de silence, ouais. Et.
Et je l'ai pas.
Bon.
Et voilà, donc c'était les faiseurs de silence, le tome justement donc sur de Spirou et Fantasio. Et en fait là, tu vois, gros blackout dans ma tête. En fait, c'était un tome des petits hommes, le triangle des abysses. Et,
oui. C'est une belle confusion.
Seron
d'ailleurs. Ils sont deux.
Et donc voilà. Mais là, c'est une vraie image qui rappelle exactement cet tome-là. Mais finalement, aucun lien avec Spirou et Fantasio. Et là, je vais aller me coucher parce que je me fais une entorse de la tête.
Eh bien, c'est pour ça que nous allons parler de ton activité en dehors du travail avec... je vais faire un plan dans la phrase. Elle était très jolie. Nous allons parler donc de ton activité en dehors du travail, parlant de l'intégrale. Donc, l'intégrale
de Martin Wittberg, le journal d'un remplaçant et les instits n'aiment pas l'école.
Alors c'est un micro intégral parce qu'en fait on a eu beaucoup de choses à lire en 3 semaines, hein, vu que c'était il y a 3 semaines le dernier, et on a pris pas mal de retard. Donc on est revenu sur des choses très courtes. On a décidé de partir donc sur les bouquins de Martin Wittberg qui parlent d'instits. D'un autre côté, je ne sais pas s'il a sorti d'autres bouquins depuis. Oui, il a fait les pubs direct assurance. Et donc, nous allons parler du journal d'un remplaçant et des instits n'aiment pas l'école sous un regard, je pense, très très professionnel, car on peut le dire, je pense.
Pas du tout engagé.
Thio est instituteur lui-même et moi, je suis le mari d'une institutrice, enfin d'une professeure des écoles.
Et il est aussi l'ami de quasiment toute une classe entière d'instits, car forcément les instits ne se reproduisent qu'entre eux.
Oui, c'est assez terrible.
Et ils font partie d'un clan.
Je suis rentré dans une secte assez terrible. Si vous, franchement vous trouvez une instite super mignonne, évitez. Vous êtes foutu jusqu'à la fin de vos jours.
Sauf si vous êtes instite vous-même, parce que du coup vous passez vos vacances ensemble.
Oui, c'est vrai.
Alors, que dire ?
On va commencer par le journal d'un remplaçant. Alors, le journal d'un remplaçant est une bande dessinée qui, à la base, est parue sur le blog de Martin Wittberg. Je ne sais même pas, elle est peut-être encore disponible intégralement, j'ai des doutes quand même. Qui donc a permis, entre guillemets, d'inaugurer la collection Shampoing. Je ne crois pas que ce soit le premier bouquin de la collection Shampoing. C'est chez Delcourt, hein, c'est ça. Donc c'est une collection qui a été lancée, c'est Lewis Trondheim, je crois, qui est directeur de la collection, et qui, en gros, voulait regrouper des bouquins qu'on trouvait dans les blogs, principalement sur Internet. Dans la collection Shampoing, c'est là qu'on trouvera, par exemple, le blog de Boulet, diverses choses dans le genre. Beaucoup de choses ont été redessinées pour ce journal-là remplaçant, et ça raconte l'histoire d'un jeune prof des écoles, on va dire prof, hein, pour simplifier. Un jeune instit qui se retrouve un peu contraint de devoir travailler dans une école, dans un institut éducatif médico-éducatif où les élèves sont tous des fous furieux en gros et des cas sociaux et des cas. C'est quelque chose d'assez dur, parce que je veux dire, Martin Wittberg jette un regard un peu sans concession sur son travail. L'exemple typique du bonjour, nous cherchons un volontaire pour aller dans l'école difficile, est-ce que ça vous intéresse ? Ah non, ça m'intéresse pas. Ah, coup de fil le lendemain. Ah, au fait, c'est vous le volontaire. Il parle de la difficulté de la relation avec ses élèves, de comment s'intégrer, surtout quand on débute, de la difficulté quand on est un jeune instit. En général, avoir des postes difficiles, hein. Enfin, c'était le cas à l'époque. Maintenant, il y a eu des changements pour essayer de simplifier la vie. Enfin bon. Voilà, on n'est pas là pour faire une critique. Martin Wittberg le fait très bien. Et puis sur l'attachement qu'on peut avoir dans ses, avec ses élèves difficiles. Et puis surtout les crises de conscience, la difficulté personnelle, les phases de déprime. Et tout ça avec des bonhommes patates.
Ouais.
Car Martin Wittberg a un style très particulier. Ses personnages sont des bonhommes patates. Qui pourtant sont d'un dynamisme dans les dessins que je trouve vraiment exceptionnel. Je ne pensais pas qu'on puisse rendre des bonhommes patates aussi expressifs.
Surtout, c'est que son dessin a évolué.
Oui.
Mais je dirais presque sans évoluer.
Et non, c'est le retour du passé, du futur, du évolution
c'est
du
ça,
dessin.
C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il a évolué parce qu'on sent bien qu'il le gère beaucoup mieux qu'au début, mais pour autant, quand même, on prend, donc, je crois, les Incites n'aiment pas l'école qui est venu après, le journal du remplaçant, hein, c'est le même coup de crayon, c'est le même dynamisme, mais en mieux.
Oui, c'est une évolution positive. Alors, bon, le journal du remplaçant est une histoire vraie, hein, qui est très peu romancée, il me semble.
Qui c'est, sent le vécu, quoi. Hein.
C'est sa vraie expérience. Tous les Incites qui l'ont lu ont dit « Ah bah ouais, c'est un peu ça ». Voilà, connaissant des instituts qui sont aussi dans des classes difficiles, des classes d'handicapés, hein, c'est un petit peu ça aussi. Je recommande grandement cette bande dessinée qui, franchement, permet de se mettre à la place des instituts. Chose qui est assez difficile en général, car c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de tout le poids qu'on peut faire tomber sur eux. Toute la confiance qu'on peut mettre en eux, alors que c'est pas des super-héros et que leur formation est pas si top que ça. Voilà.
Voilà, mais surtout ce qui transparaît dans les livres de Martin Wittberg, c'est les personnes qui choisissent ce métier-là ont une vraie passion pour ce métier-là aussi. Voilà, c'est on sent que le gars il adore son taf et que c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur.
Oui, là on a parlé longuement du journal d'un remplaçant, hein, qui est donc son premier bouquin, qui faut acheter-le, hein, c'est vraiment très bien. On va parler des Incites n'aiment pas l'école, donc, qui est son deuxième petit bouquin. Alors là c'est sorti en tout petit, alors c'est quoi, c'est Blop ?
Blop, je sais même pas. Diantre édition,
qui est un tout petit bouquin qui coûte vraiment pas grand-chose. 5 euros ?
Ouais.
5 euros. 5 euros. Bon, ça fait un peu cher pour le tout petit bouquin, mais si vous connaissez des instituts, des profs, tout ce que vous voulez, ils adoreront.
C'est un bon cadeau.
C'est un beau petit cadeau. Le journal à remplaçant, on n'a pas dit le prix. Il doit être un peu. Tu vois que ça va être un code encore.
DE20. Alors, ça doit être entre 7 voilà. et 10.
C'est un DE20. Bon, je sais pas, j'aurais tendance à dire que c'est un truc qui doit coûter entre 9 et 15 euros.
Parce que celui-ci, c'est un DE10.
D'accord. Bon, je ne comprends rien à leur tarif. Les Incites n'aiment pas l'école, alors là, c'est une sorte de petit essai.
Petit essai, ouais, pour expliquer que, oui, mais justement ce que tu disais, quoi, l'Instit n'est pas un super-héros, il n'est pas différent des autres humains de cette Terre. Contrairement à ce que pensent tous les enfants, les Instits peuvent aller au cinéma, ils vont faire des courses. Quel Instit n'a pas croisé un de ses élèves dans un grand centre commercial ? Mais vous mangez.
Oui, vous êtes des gens exceptionnels.
C'est ça. D'un coup, on sort de l'école et là, ils découvrent qu'on peut être dehors.
Enfin, bon. Ok. Moi, je l'ai trouvé très drôle parce que c'est plein, une succession de faits, de présentations de personnages fictifs, ou pas tant que ça, et de ce qu'ils aiment dans la vie, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Avec ce dessin donc, qui, effectivement, a évolué, a mûri, on va dire, a gagné en dynamisme. Martin Wittberg est un auteur à suivre. Il a un blog qu'il tient régulièrement, qui est hébergé chez Le Monde, où il essaye de faire du dessin quotidien d'actualité. Exercice dans lequel il n'est pas mauvais non plus. Surtout, étonnamment, quand ça parle d'éducation. Voilà, on a fait le point sur Martin Wittberg. Notre rubrique online. Donc, pour notre rubrique online, nous allons parler des autres gens. Alors, les autres gens est quelque chose en français. Oui, je choisis quelque chose en français. Dont on parle pas mal en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui participent, des auteurs indépendants. C'est une bande dessinée qui, pour le moment, est accessible gratuitement, mais qui sera payante selon un modèle économique assez particulier et assez original, je trouve. C'est un grand feuilleton quotidien qui, pour parler rapidement du scénario... raconte ce qui arrive lorsque une jeune fille donne les numéros de des numéros d'Euromillion pour aider un gars qui est en train de remplir un Euromillion. Et le gars lui dit bah, de toute façon, si je gagne, on partage. Et elle croit que c'est une blague, une technique de drague, et il gagne. Et elle se retrouve avec ça. Et on voit comment, bah, dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, leur relation avec les personnes, est-ce que cette chose-là va influencer. Mais ça reste une histoire, je dirais, parallèle à l'intrigue générale. Mmh. C'est un peu le fil conducteur qui nous permet de rencontrer d'autres personnages et de rentrer dans leur vie, dans leur quotidien, et de savoir bah, comment ça se passe. On est vraiment dans le feuilleton. Le feuilleton populaire, je dirais.
Plus belle la vie.
Oui, plus belle la vie. Bah, comment ça, on a ce côté un peu plus belle la vie, sauf que bah, pareil, avec des dessins qui, je dirais, ont un petit côté parfois un peu cheap. On sent que les auteurs dessinent assez rapidement, même si c'est des dessins moi, que je trouve très bien.
Oui.
Mais je trouve que certains, effectivement, c'est dessiné rapidement. On est vraiment dans le feuilleton et c'est, je trouve, le côté populaire que j'aime beaucoup. Il y a une très très grande liste d'auteurs. Alors, je vais en citer quelques-uns pour voir ça. Alexandre Franc, Assène, Bandini, Camille Jourdi, Chloé, Cruchaudet, Klotzka, Erwan Surcouf, Manu XYZ, Marion Montaigne, Nicolas Néméry, Nico Henrichon, Olivier Martin, Philippe Scofoni, Sébastien Vincent, Saint-Jean, Tank, The Black Frog, Thomas Allard, Thomas Caden, Vincent Sorel. Ça fait beaucoup de gens. Non ?
Oui.
Oui. Nico Henrichon, qui, si je me souviens bien, a fait une bande dessinée dont il faudra qu'on parle un jour, que j'aime beaucoup. Ah, Nico Henrichon, ça te dit rien ? Il a dessiné pour les États-Unis, hein, ce monsieur. Hein.
Ouais, voilà, c'est sur le bout de la langue là.
Ouais, mais... il est sur le bout de la langue avec une histoire d'animaux. J'ai un doute. Je préfère ne rien dire plutôt que de dire une connerie. Voilà. Bref, que des gens plus ou moins connus, mais en tout cas assez reconnus dans le côté indépendant et le côté web. Hein. Ils ont tous, la plupart du temps, des blogs et ils sont assez productifs. J'ai trouvé, moi, la démarche très intéressante. Donc, le premier mois est gratos, histoire qu'on se fasse une idée. Une histoire qu'on tombe dans le piège du feuilleton et qu'on a envie de savoir.
C'est ça. Une fois qu'on a commencé à être, qu'on est mordu, voilà. On se dit tiens, je saurai la suite.
Ça demande quand même une inscription sur le site, même si alors ils ont décidé de rendre la première semaine accessible sans inscription. Les abonnements seront vraiment pas chers, j'ai plus d'idée des tarifs, mais je trouve que l'idée d'essayer de trouver un modèle économique original pour une production en ligne, pour de la BD en ligne, est bien. Ça permet d'essayer d'aller de l'avant plutôt que d'attendre que les BD soient toutes piratées. Et en plus, ça permet de proposer des produits qui sont vraiment adaptés à la lecture en ligne. On a des successions de cases uniques qui se lisent en descendant. On n'a pas de mise en page complexe. Ça peut très bien se lire sur un téléphone portable sans difficulté. C'est quelque chose, je trouve, qui est très, très adapté bah, aux médias, Internet et aux différents supports qui vont nous permettre de le lire. Quelque chose à rajouter ?
Non.
Bon, bref, je trouve que c'est vraiment quelque chose à encourager. J'hésite grandement à m'abonner. L'histoire m'a pas captivé plus que ça. Bon, c'est quelque chose d'assez, voilà, c'est une histoire du quotidien, c'est sympa. Mais je trouve que le concept est vraiment intelligent et que ça mérite d'être soutenu. Donc voilà, c'est sur les autres gens. Adresse sur le blog. lesautresgens.com. Et j'ai la confirmation magique de mon cerveau qui arrive à faire des pauses dans le temps pour pouvoir se balader dans sa bibliothèque. Nico Henrichon a bien dessiné Pride of Baghdad, scénarisé par Brian Cavogan. On a décidé qu'un jour on en parlerait.
On en a parlé justement au dernier podcast, je ne sais plus sur quelle série, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et donc moi, pour en venir juste sur Les Autres Gens, parce que j'ai un truc à dire, c'est que donc, j'étais dans ma voiture, j'écoutais France Info.
Écoute des radios intelligentes.
C'est ça. Et je suis tombé juste à ce moment-là sur le moment où il parle donc, d'un nouveau dictionnaire de la bande dessinée. Et l'auteur donc, de ce dictionnaire dit, on lui pose la question, et de quel est le dernier article que vous avez rajouté ? Et il dit, c'est un article sur Bastien Vivès, qui est
le scénariste des Autres Gens.
Voilà.
Voilà, donc l'anecdote marrante, les choses se croisent. Donc, voilà, mais après, ça fait beaucoup parler ça fait beaucoup parler les autres gens. J'espère pour eux que ça va marcher quand même, parce que c'est un modèle original.
Mais ça fait parler qui ?
Sur Internet. Oui, moi je traîne beaucoup sur Internet. Tu sais, ce média moderne qui permet d'avoir des informations.
Les autres gens sur Internet.
Oui, oui. Oh putain. Oh là là ! Tu fais dire n'importe quoi. Pour le coup, on va aller sur notre dernière petite rubrique, le hors sujet.
Hors sujet, totalement hors sujet, un truc sorti de nulle part, du fin fond du cerveau du One IP.
Qui va vous parler de jeux vidéo avec Tales of Monkey Island. T'as vu, j'ai dit Monkey, comme si j'étais un vrai Américain, et pas Monkey, comme on dit en français.
Un Monkey.
Voilà. Monkey Island est une vieille série qui date des années 80. De jeux en point and click, ces jeux d'énigmes où on se baladait dans différents écrans fixes pour attraper des objets, les combiner les uns avec les autres, faire des discussions à choix multiples et essayer d'avancer dans l'intrigue. C'est un des jeux de point and click les plus réputés. Il y a d'ailleurs le premier épisode qui a eu droit à un remake l'an dernier, où en fait ils ont amélioré les graphismes. Ils ont annoncé la même chose pour le deuxième épisode. Et c'est un jeu qui est produit par LucasArts, la série Monkey Island. Donc LucasArts, la boîte de production de jeux vidéo de George Lucas. Ils ont sorti 4 épisodes sur PC, le 4e est même passé sur console, il me semble. Les deux premiers sont très bien, le 3e est sympa, le 4e est cool, sans plus. Et comme le point and click est un genre qui s'est un peu cassé la gueule, ils ont décidé pour un nouvel épisode de refiler la main à une petite boîte qui s'appelle Telltale Game. Donc Telltale Game a eu la lourde charge, sachant qu'ils étaient fans de gens point and click, ne produisant que ce genre de jeu, de faire un nouveau Monkey Island qui plairait à la fois aux fans et un peu à tout le monde. Ils ont décidé que ce Monkey Island serait un Monkey Island particulier, que ce serait un à part. Il se passe après le 5e épisode, qui n'est jamais sorti. Et il raconte comment Guybrush Threepwood, le héros au nom improbable de ses aventures, par erreur, alors qu'il se bat contre son ennemi de toujours, le terrible pirate fantôme zombie démon, je ne sais plus quoi, trop quoi, LeChuck, arrive à libérer une vérole qui empoisonne tous les gens, une vérole vaudou. Tout en même temps en rendant le terrible pirate LeChuck gentil. Il n'a plus le mal en lui. Et il se retrouve à devoir essayer d'empêcher cette vérole qui touche tout le monde derrière. La particularité de ce jeu, c'est qu'il est en épisode, 5 épisodes, qu'il était vendu en épisode, on pouvait acheter chaque épisode indépendamment, même si ça se suit quand même au niveau de l'histoire, c'est un peu dommage de jouer à l'épisode 3 sans avoir joué aux deux précédents. Qui sortait à un intervalle d'un mois, des épisodes assez, on va dire, courts, hein, qui se finissaient entre 2 et 4 heures, ce qui est court pour un jeu, mais pour du point and click, ça fait quand même
20 heures de jeu, ça reste raisonnable.
Oui, sur les 5 épisodes.
Je connais des gros best-sellers au niveau jeu qui ont moins de scénarios que ça.
Oui,
hein.
Qu'un mode solo qui dure 6 heures à tout casser.
C'est ça, Call of Duty.
On sent que l'équipe de Tales of Monkey Island, ce sont des fans. Ils ont fait un petit moteur 3D très sympa. Alors, le déplacement n'est pas toujours évident. Ça marche à la souris ou au clavier. Enfin, ce n'est pas du vrai point and click à l'ancienne. Ils ont voulu s'adapter parce que le jeu existe aussi sur WiiWare. Mais, surtout, n'achetez pas la version WiiWare si vous avez une Wii. Jetez-vous sur la version PC ou Mac qui vient de sortir. Car sur la version PC ou Mac, vous aurez déjà un jeu bien mieux fait. L'adaptation Wii, à ce qu'on m'en a dit, est pourrie. Et en plus, vous pourrez, en vous rendant sur un site dont le lien sera sur le billet du blog, vous pourrez avoir des traductions, car des équipes de fans ont, en accord avec les concepteurs du jeu, fait des fichiers de sous-titres pour pouvoir y jouer avec des sous-titres en français.
Waouh.
Ouais, moi j'avais commencé en anglais total.
Fais mal à la tête, ça.
Ouais, c'était bien. Bref, Tales of Monkey Island est un jeu fantastique. Si vous aimez les énigmes, un peu vous vrillez le cerveau. Certaines sont très bien trouvées et très originales. L'humour est omniprésent, à la limite de l'absurde et du n'importe quoi. La résolution des énigmes est quelque peu capillotractée parfois. Bref, voilà. Je voulais juste en parler rapidement. Est-ce que tu avais déjà joué à Monkey Island, toi ?
Non.
Non, toi, t'es plus jeu où tu tires sur tout ce qui bouge et où tu tues des gens.
Ouais, jeu où tu roules sur tout ce qui bouge et où tu roules tout court, en fait.
Voilà. Oh là là, tu vois, toi, tu es méchant. Moi, je préfère utiliser mon cerveau quand je joue.
Oui, mais moi, j'ai fait les Chevaliers de Baphomet et en énigme capillotractée, pour ceux qui se rappellent, le balai à chiottes et le truc pour faire les kebabs, s'en souviendront que celle-là, elle était quand même
la chèvre.
La chèvre.
Ouais. Bon.
Bon, enfin bon. Hein.
Voilà. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir écoutés jusqu'ici. On a été un petit peu long, mais c'est pas grave.
Oui.
Mais voilà, bon. Mais pas beaucoup plus long que d'habitude. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le blog. N'hésitez pas à nous laisser une note, voire même un commentaire sur iTunes. C'est ce qui nous permet d'être vus, c'est ce qui nous permet de gagner des auditeurs, c'est ce qui nous permet d'avoir un petit peu de renommée, de devenir célèbre, peut-être riche un jour, qui sait. Nous avons une page fan Facebook, le lien sera aussi sur le blog, qui se trouve à l'adresse http://blog.jeudepied.org.
Tu peux le mettre, s'il te plaît.
Tu as très bien entendu, et puis si le mec, tu feras un retour rapide et replay. Hein, c'est pas compliqué non plus. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à la licence Creative Commons qui nous permet d'utiliser désormais les musiques de Ours Vince pour illustrer notre podcast. Et à bientôt. Au revoir.
À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.